Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Nous sommes le 29 mai et vous écoutez le 67e épisode de Proxy Jeux. Et dans cette quatrième partie, nous allons vous parler des jeux que nous avons aimés en ce moment.
Bonjour Jérémy.
Non, mais je te dis bonjour après si j'ai envie.
Bonjour
pas.
Jérémy.
Ouais, il croit pas.
Alors d'abord, je vais dire bonjour à Franck.
Bonjour Jérémy.
Bonjour Franck. Après, bonjour Geoffroy.
Oui, bonjour Jérémy.
Bonjour
et
Jérémy.
Et en plus, j'aurais dû qu'on se fait à Ève. Bonjour Ève.
Bonjour Ève.
Bonjour.
Bonjour Ève.
Et bonjour Olivier.
Bonjour Jérémy. Bon, on parle de jeux là, un peu.
Ouais, voilà, bah voilà, on est là pour parler des jeux. Et on va commencer par un sous le buzz avec Yannibus qui va nous parler de Bomber.
Papayou.
Non, Papayou, c'est l'épisode d'avant.
Et qui a été bien apprécié par Bubu Grevlu.
Bah ouais, du coup, je vais en prendre un pour jouer avec Megama.
Et donc, on va parler de Bombay. Ça se trouve encore Bombay ?
Oui, effectivement, Bombay, il est encore édité puisqu'il est, vendu à 34,90€ chez Philibert. Donc, on peut encore le trouver.
Avec des vrais éléphants dedans.
Je crois que maintenant, Yannibus, il fait gaffe à prendre des jeux.
Mais je crois qu'il a toujours fait gaffe voilà. À ça.
Bon. Et puis si cet Istar, il n'arrive pas à faire la chronique, il vous parlera de Prosperity.
Bah c'est quoi cette vieillerie ?
Sous le buzz par Yannibus.
Salut les joueuses, salut les joueurs et salut la Proxy Team. Développement durable, sommet du climat, les grands barnums environnementaux se succèdent avec un résultat visiblement assez limité. Il est assez rare que ce thème soit traité directement dans les jeux de société. Il y a bien des tentatives comme CO2 il y a quelques années, la pollution dans Antiquity et dans Funkenschlag, et le sous le buzz d'aujourd'hui va se concentrer sur l'un d'eux.
Il faut que tu respires. Ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire.
Prosperity est un jeu pour 2 à 4 joueurs créé par messieurs Rainer Knizia et Sébastien Blisdale. Il est illustré par Arnaud Demegde et Neriac. Il est édité chez Istari, mais ça, vous l'aviez déjà deviné en entendant le nom des illustrateurs. Le jeu est sorti pour Essen 2013 et vous le trouverez chez Philibert pour un peu moins de 30€. Dans Prosperity, vous allez devoir développer votre pays, représenté par un plateau individuel, en achetant des tuiles de bâtiments ou de technologies. Ces tuiles faisant évoluer en positif ou négatif deux échelles, votre échelle d'énergie et votre impact environnemental. En gros, les tuiles technologiques qui vont produire de l'énergie vont avoir tendance à avoir un impact environnemental négatif, et les technologies de recyclage, par exemple, demanderont un niveau de production d'énergie très important. Chaque tuile fait donc évoluer en positif ou en négatif l'un ou les deux curseurs. Au début de chaque tour, un décompte parmi 4 est effectué selon votre niveau de production d'énergie, votre impact environnemental et les bâtiments que vous avez déjà mis en place sur votre plateau. Ces décomptes vous permettront de gagner de l'argent, de gagner des points de victoire, d'ajouter ou de retirer des jetons pollution qui feront aussi en cours de partie gagner des points. Et enfin, de monter son niveau sur la piste de recherche. Le tour de jeu est très simple. À un tour de jeu, un joueur peut effectuer 2 actions parmi 4 actions très simples. Retirer un jeton de pollution sur son plateau, gagner un peu d'argent, acheter une tuile ou monter d'un niveau sur la piste de recherche. La piste de recherche, finalement, ça sert à payer moins cher les tuiles. À chaque tour, une nouvelle tuile est piochée, les 36 tuiles, et donc les 36 tours de jeu permettent de voyager de la décennie des années 70 aux années 2030. En fin de partie, un nouveau décompte est effectué, et les points de victoire sont marqués par les joueurs les plus avancés sur la piste de recherche. J'ai essayé d'être le plus concis possible dans la présentation des règles, en espérant avoir été assez clair tout de même, car en fait, cette précision et cette concision, c'est vraiment la force du jeu. Prosperity est un jeu à l'ancienne, si cher au cœur de Jérémy, avec 2 mécanismes de base qui sont huilés comme une horloge suisse. Je n'ai pas connu la grande époque des jeux de Knizia, des Tigres Euphrate et compagnie, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à les découvrir. Je pense que Prosperity est dans cette veine-là et devrait plaire aux nostalgiques et aux nouveaux joueurs comme moi qui n'ont pas connu l'ensemble de cette génération. Comme dans Proxy Jeux, il y a Proxy, Je voulais vous inciter à prendre avec vous dans votre sacoche de travail des petits jeux de cartes de type Love Letter, Complot, et de ne pas hésiter à proposer à vos collègues de se détendre à la cantine. Certains vous regarderont avec des yeux ronds, mais pour le peu qu'un ou deux acceptent, vous verrez rapidement les regards se tourner sur votre table et vous devrez accueillir bientôt un troisième puis un quatrième joueur. En attendant de se croiser au self, jouez bien.
Ah, encore une chronique de Schrödinger, c'est-à-dire, tu veux dire que ce qu'on a attendu, c'était peut-être pas Bombay, c'était peut-être Prosperity, c'est ça?
Peut-être, on sait pas.
Ah, ok. Et merci Yalibus pour ce jeu.
Encore des nouvelles idées de jeux.
D'achat,
exactement.
Passer sous le buzz.
Prosperity, c'est sorti il y a 2 ans, ouais.
Oui,
si c'est Bombay, il est sorti un peu plus longtemps.
Ah,
et Prosperity, c'est
bon un... courage pour tout couper.
C'est un Istari.
Oui, c'est deux Istari, oui.
Franck, donc on ne t'a pas beaucoup laissé parler la semaine dernière.
Oui, on a laissé beaucoup la parole à Geoffrey.
Et c'était fort intéressant. Est-ce que tu veux nous, en trois mots, nous dire à quoi tu joues et comment ton parcours de joueur, tout ça, mais en trois mots.
Alors à quoi je joue? Je joue un peu tous les styles de jeu. J'essaye de renforcer ma culture ludique en jouant à des jeux qui sont pas forcément des jeux récents. J'essaye de pas aller dans des jeux qui vont durer trop longtemps parce que il faut que j'en essaye beaucoup et que j'ai beaucoup acheté de jeux cette dernière année où j'ai commencé à jouer.
C'est normal. Ouais.
C'est normal. C'est le syndrome de découverte.
De la
Donc voilà. Et puis mon passé, bah, j'ai fait un peu de jeux de rôle. J'en garde des vagues souvenirs.
C'était marrant.
Ouais. C'était marrant, ouais. Non, j'ai de bons souvenirs de Chill, Vampire, Loup-Garou, auquel j'ai beaucoup joué, et puis voilà.
Ça sent
le running gag.
Non, c'est pas un running gag.
Mais non,
jamais.
C'est la blague de minuit.
En plus, je lui dis oui, mais. Mais il n'y a que eux qui se comprennent parce que Geoffroy là-bas n'a rien dit.
J'ai désespéré.
Écoutez,
on passe d'Apocalypse World à jeu marrant.
Là, c'est parce que c'est jeu drôle. À nouveau, il fait le. Drôle,
marrant.
C'est un truc débile, mais voilà.
Moi, je cautionne pas.
On a bien vu, t'es en retrait alors que. Et je vois pas comment Vampire peut être un jeu marrant.
Il y a un signe pour ça.
Ouais, non, c'est.
Donc, Franck.
Oui.
Tu connais le concept. Dans la quatrième partie, on propose de faire découvrir à nos auditeurs des jeux. Oui. Est-ce qu'il y a un jeu que tu voudrais faire découvrir?
Alors, il y a un jeu en ce moment auquel je joue beaucoup et que j'apprécie beaucoup. C'est Sapiens.
Ah.
Alors, Sapiens a
le jeu de domino.
C'est un jeu qui est basé sur le principe du domino, effectivement, dans lequel on est un chef de tribu néandertal,
préhistorique.
Et puis préhistorique, voilà. Et puis on va guider sa tribu dans une vallée, et le principe, en fait, est de faire matcher les dominos les uns avec les autres. Sur chaque domino, on a 2 scènes, et on va pouvoir activer les pouvoirs des scènes pour progresser plus vite, récolter de la nourriture. Et puis récolter des points d'abri en reliant les cavernes les unes avec les autres. Alors c'est un jeu qui à première vue avec l'illustration peut sembler un petit peu facile, un petit peu familial, alors qu'en fait il l'est pas du tout, et il est très stratégique, et on peut très vite se bloquer dès le début si on fait pas le bon choix de tuiles. Voilà, et c'est un excellent jeu.
Jérémy hoche la tête.
Oui, c'est vrai qu'on peut se rater et que le graphisme familial n'est pas du tout à la blanche par rapport au jeu qui est très froid, mais très, très
mécanique. Et c'est un jeu qui est très très bon aussi bien à 4, 3, aussi bien à 2. Et à 2, il y a une petite variante qui est un petit peu plus agressive, dans laquelle en fait on brûle une tuile, on a une réserve.
C'est Legacy? Sapiens,
non,
Legacy, tu brûles la tuile.
On la brûle pas. On la brûle un peu comme au poker. On l'enlève de la pioche, en fait, pour son adversaire. C'est-à-dire que si on voit une tuile qui va l'intéresser et qu'il y en a une qui nous intéresse, on va prendre la nôtre et puis on va brûler celle qui peut l'intéresser. Donc c'est un petit peu plus agressif et c'est très très bon. Et c'est un jeu de c'est Cyril Leroy, je crois qu'il est.
Oui, c'est ça.
Et de Catch Up Games, qui est
lyonnais,
qui est pas très loin d'ici, voilà.
C'est lyonnais.
Ouais, Cyril Leroy, je l'avais interviewé il y a 2 ans quand son fils était champion de Pokémon.
Ah, c'est lui
de Pokémon.
Ouais. Moi j'ai joué à Sapiens, mais je suis pas très fan.
Parce que tu trouves ça trop froid.
Trop froid, ouais. Alors moi, en plus, je l'ai connu. Cyril me l'a fait jouer quand il était encore en version un peu plus proto. Mais moi je le trouve assez froid. C'est la pose de domino. C'est-à-dire qu'il faut que tu calcules parce que t'as quand même vache des règles assez contraignantes pour poser ton domino. Donc il faut que tu vérifies que tu les as ou pas. Que c'est pas un autre joueur qui l'a. Que c'est au centre parce qu'il faut que tu puisses aller la prendre. C'est compliqué. Puis après, il faut que tu calcules pour ce coup-ci. Puis il faut que tu regardes le prochain coup. Bah ouais. Et en plus, effectivement, tu peux, c'est arrivé à Stéphane quand on y a joué à Cannes, tu peux te rater au départ. Tu mets mal ta tuile, fais pas gaffe. Surtout la première partie, paf, t'as perdu.
Tu peux abandonner ta tribu et recommencer.
Tu repars derrière. Ouais, du coup, tu scores des points en plus. Hein. Ouais, mais tu scores des points, tu scores pas mal. Bref, c'est. Voilà.
Abandonner sa tribu n'est pas forcément un inconvénient.
Non, effectivement, mais bon. C'est toujours un peu frustrant pour l'autre joueur. Il a joué son premier tour et je peux déjà plus jouer, il faut déjà que je reparte ailleurs. Et après, je sais pas, je vois que le jeu a quand même un bon succès. Donc,
j'ai entendu des choses variées. Hein. J'ai entendu beaucoup de bien et puis j'ai entendu des choses un peu moins.
Ouais.
Moins
fait. Par contre, il est super beau. Enfin, je trouve que vraiment l'illustration, effectivement, c'est bien fait et ça donne envie. Quoi. Mais voilà, après, moi, j'ai pas été. La partie que j'ai refaite à Cannes m'a pas.
C'est vrai que j'ai des reproches parce que j'essaie de le faire jouer un petit peu dans l'association où je suis. Et c'est vrai que j'ai des retours un petit peu sur le rythme qui va être un petit peu plus long sur les joueurs.
Est-ce qu'il faut tout calculer, etc. Quoi.
Analysis par Lysis, jusqu'à ce point-là.
C'est pas comme un jeu de gestion où tu dois recalculer toutes les conséquences, mais ouais, quand même, si tu veux enchaîner un peu tes dominos, c'est un peu ça. Par contre, t'as une petite interaction qui peut être sympa, à condition d'aller voir les tuiles de tous les joueurs, quoi. Mais de temps en temps, tu peux leur piquer une tuile, tu peux. Mais ça fait toute une lecture compliquée. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le plateau adverse. Tu dis bon, quelle tuile il a besoin pendant que c'est ton tour. Heureusement, hein, pendant que les autres jouent. Mais
bah, donc il faut y jouer. Oui, y jouer à 4, il faut jouer à 2-3, quoi.
T'attends pas si longtemps que centre du tour. C'est quand même pas un jeu vaisselle.
Et puis il y a l'ours qui apporte aussi une interactivité.
Quoi ça ?
Direct. Il y a un ours.
Il y a un vrai ours dans la boîte.
Il y a un vrai ours dans la boîte. Voilà. Il y a une boîte où il y a un ours. Non, c'est en fait.
Oui, c'est ça. Ils en ont fait 3000 et il y en a une où il y a.
Il y a du vrai argent préhistorique.
Faites attention.
Il y a un pouvoir qui est le pouvoir de la tuile, la scène feu en fait, qui te permet d'aller poser un ours sur le plateau adverse et potentiellement de bloquer le développement de l'adversaire.
Et ça rapporte des points.
Et accessoirement, voilà, ça rapporte des points d'abri.
Ouais, si c'était la fée du Tigre, ce serait un nain. Hein.
Non, quand il a fait la vallée des mammouths. À l'époque, il n'y avait pas de nain.
D'accord, je ne connais pas la vallée des mammouths.
Un vieux jeu.
Ouais.
Donc, Sapiens, c'est un jeu de Cyril Leroy, illustré par Marc-Antoine Allard chez Catch Up Games. C'est un jeu pour à partir de 10 ans, pour 2 à 4 joueurs. Et c'est annoncé pour une demi-heure à une heure, vous confirmez ?
Oui.
Oui.
Donc c'est assez rapide.
On sera plus près d'une heure à 4 joueurs. Voilà. À deux la demi-heure, à 4 une heure.
32 euros chez Philibert. Alors, il y a 4 semaines, on vous a parlé des dominés au Spiel des Saros. Et alors il paraît qu'il y a aussi des jeux qui sont qui sont conseillés.
Ouais.
Et Cacao en fait partie. J'ai pu essayer Cacao ce week-end. Et effectivement, ça m'a fait une bonne impression. Donc, je vous laisse vous en parler. Cacao, c'est un jeu qui est très simple. J'ai envie de dire, ça m'a l'air d'être un peu un jeu comme Sapiens. C'est-à-dire que les règles sont simples. On a 2 tuiles dans les mains. On en pose une à chaque tour. Et puis, c'est au suivant de jouer. Et en fin de compte, on applique les actions qui vont se déclencher quand on pose sa tuile. Les actions qu'on peut déclencher, ça va être récolter du cacao, vendre ce cacao pour des pièces d'or, avoir des points de victoire, se positionner sur une majorité pour des temples, et puis après il y a 2 actions qui sont un peu particulières. C'est avancer sur une piste où on commence en négatif et où on va augmenter. C'est la rivière, et puis le deuxième, ça va être avoir des jetons qui vont nous permettre de faire des actions supplémentaires par la suite, en fin de partie, et qui vont nous permettre de mettre une tuile sur une tuile qu'on a déjà, et donc de reprendre éventuellement des majorités sur des temples, ou de refaire une action qu'on a déjà faite. Donc c'est très simple, c'est un jeu à l'allemande parce que c'est assez comptable, c'est très accessible, j'ai trouvé. C'est-à-dire, c'est très opportuniste. Tu peux soit te mettre sur des majorités, soit te dire, après, t'as quand même des coups à faire en disant, tiens, bah là, je vais pouvoir récupérer du Kaiko et en plus, je vais pouvoir le vendre.
À condition d'avoir la bonne tuile, c'est ça, parmi les seuls côtés.
Ou... À condition d'avoir la bonne tuile. Alors, c'est des tuiles qui ont 4 bonhommes. Donc, t'as une tuile, c'est un carré avec 4 faces. Et tu vas voir 4 bonhommes, tu vas pouvoir en avoir. Un sur la première face, deux sur la deuxième et un sur la troisième, ou un sur chaque face, ou trois sur une et un sur l'autre. A priori, il ne doit pas y avoir beaucoup plus de possibilités. Et donc,
Je suis peut-être fatigué, mais tu m'as parlé de carré à trois faces, là, c'est
non.
ça
quatre, Non. Tu as quatre côtés, mais ils ne sont pas tous valorisés
côtés,
avec des bonnes
côtés. Tu vois, okay. Ah oui, à face, j'ai dit face et pas côté.
C'est des côtés. C'est la fatigue.
Les 3D, 2D, voilà.
Donc, tu vois, on sera en langue des signes, ce serait plus simple.
Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ta tuile, sur un des côtés de la tuile, tu vas avoir 1, 2, 3 ou 0 personnages. Et en fait, chaque côté va être placé, enfin, tu vas positionner ta tuile pour qu'elle touche une tuile qui va te permettre d'avoir du cacao, ou de pouvoir le vendre, ou de pouvoir avoir des points de victoire. Et en fin de compte, bah, tu vas multiplier cette chose-là, tu vas le multiplier par le nombre de personnages. Donc si t'as pas de personnage, tu vas pas faire l'action. Si t'en as un, tu vas faire une fois, par exemple, tu vas avoir un cacao. Si t'en as deux, tu vas faire deux fois, tu vas avoir deux cacao, etc. etc. Enfin, et trois, tu vas avoir trois cacao. Donc c'est très simple, c'est assez rapide. C'est tout à fait plaisant en fait.
Les faces qui restent,
oui,
sont les faces pour les autres joueurs ou que toi tu peux réutiliser, que y a que toi qui peux réutiliser.
Non,
le zéro.
C'est-à-dire que si, quand tu auras posé quand tu auras posé ta tuile, tu vas effectivement le poser sur contre une ou deux tuiles déjà posées. Mm-hmm. Et donc tu vas appliquer l'effet. Si par la suite quelqu'un pose une tuile sur un côté où il y aurait un personnage, tu vas refaire l'effet. Tu vas appliquer également l'effet de la tuile que tu vas poser. C'est-à-dire que si, imaginons que tu as posé une tuile et comme tu fais un paysage, bah il t'arrive, enfin tu vas pas pouvoir, enfin tu vas pas mettre ta tuile au centre dans un trou si tu veux. Donc forcément, ta tuile, elle va être adjacente à une autre tuile et peut-être à deux tuiles. Mais elle sera pas adjacente à trois ou quatre tuiles. En trois peut-être, mais pas clairement pas quatre. Et donc, le paysage va se constituer. Et quand les autres joueurs vont mettre des tuiles, en général, bah, quand tu mets une tuile, tu bénéficies aussi aux autres joueurs. Et c'est l'interaction, elle se fait là aussi. Est-ce que je vais lui donner du cacao? Est-ce que moi, ça m'intéresse? Parce que j'ai trois bonhommes sur ce côté-là. J'ai besoin de cacao. Ouais, mais est-ce que je vais en donner aussi à mon adversaire? Est-ce que je vais le faire avancer sur cette piste sur la rivière? Qui, en fin de compte, si tu pousses, te donne beaucoup de points. C'est-à-dire, ça t'en fait perdre au début, puis après, quand t'avances sur ta tuile, sur ton échelle, pardon, d'abord, tu gagnes des points, tu perds moins de points en négatif, et après, tu gagnes de plus en plus de points en positif. Donc, il y a plein de choix à faire. Encore une fois, c'est plus opportuniste que stratégique. C'est assez tactique. Mais voilà, c'est bien allemand dans la construction, c'est-à-dire ça pourrait être des mines de sel, ça pourrait être une usine robotique, ça aurait pu être n'importe quelle autre thématique.
Est-ce que ça aurait pu être des chemins autour d'un château fort?
Bah, je vois pas du tout. Un peu le rapprochement qu'ont fait beaucoup de joueurs avec Carcassonne. Pose de tuiles.
Des chemins.
Beaucoup de joueurs à Cacao, quand il a été en démo à Cannes, etc., il a été effectivement comparé à Carcassonne.
Bah non, enfin. Si, peut-être, oui. Oui, c'est ça.
Par sa simplicité, par.
Et puis, mais c'est-à-dire qu'après, il faut quand même que. Enfin, oui.
D'accord.
Oui,
tout à fait. Et c'est du même niveau, c'est abordable du même niveau.
Absolument. Je dirais c'est un poil plus. Ouais, j'allais dire, c'est un poil plus. Ouais,
parce que tu veux un peu plus maîtriser les conséquences.
Mais non, parce qu'en fait, après, t'as des majorités comme à Carcassonne, t'as différentes façons de. Oui, si tu fais ce parallèle, oui, ça marche aussi. Donc, cacao, ça doit pas être très très cher.
C'est une trentaine d'euros en français, mais chez Philibert, vous pouvez aussi l'avoir en version anglaise / allemande, qui est juste une règle en fait. Donc, si vous êtes anglais friendly pour la lecture de la règle, et ben, il vaut mieux.
Et c'est combien?
24 euros. Bah, 24 euros en anglais et 30 en français.
C'est un bon rapport qualité-prix et c'est. Alors c'est un jeu familial. Quand je dis familial, c'est qu'on peut éventuellement y jouer avec des enfants et ça se passe très bien. Alors des enfants, je vais encore me faire engueuler. tu peux jouer avec des ados facilement. Enfin, tu vois, on le rapproche de Carcassonne, donc voilà.
Alors j'ai une question là par rapport à ce que tu viens de dire, Guillaume.
Ouais.
Donc il y a 6€ d'écart pour une traduction.
Ouais.
Ouais, mais alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que
ça, c'est un autre débat, ça.
Tu payes la licence, ça veut dire que de toute façon, je sais pas qui, chez qui il est au départ.
Abacus, en Allemagne.
Donc ça veut dire que Philo va payer la licence à Abacus et en plus va payer la traduction. Va faire la traduction.
Ça veut rien dire.
Un
zombie 15 en allemand, il est moins cher qu'en France, si je me trompe pas. C'est juste après
Salaud
c'est
l'éditeur. Alors
non, bah, c'est pas, l'éditeur, hein. C'est machin, c'est ils fixent autrement comment ils veulent par rapport au marché.
Ouais, mais enfin bon.
Parce que 30€, c'est le prix normal boutique d'un Carcassonne.
On est parti la minuit et demi, on est parti sur le prix du jeu.
Bah non, je sais pas. Mais
Non, on est parti sur le prix de.
Moi, je trouve que 30€ pour un jeu de tuiles, c'est le prix Carcassonne boutique, c'est cher. Non, c'est pas le prix de la traduction.
Rien. Tu demandes aux gens de le faire, ils vont te la faire.
Tu vois, c'est philosophia, ils font en général les soins de leur trad.
C'est pas Oya, donc c'est ni Queen Games ni Oya. La traduction, elle tient plutôt la route en général. Mais
Oya, ils adaptent les règles en fait.
Encore que non, j'ai dit Oya, mais
Oya, ils te font, ils ont quand même été.
Non, c'est Queen Games qui sont,
Queen
ils
Games,
sont
ouais.
parfaits pour.
Mais Oya, des fois, ils traduisent pas la règle telle quelle. Tu vois, ils vont l'adapter pour expliquer de manière plus simple, éventuellement s'il faut.
D'accord.
Enfin, de mémoire, c'est longtemps que j'ai pas de jeu Oya.
Pardon.
Le matériel aussi, hein, les cartes. Rien que le texte sur les cartes dans Kingdom Builder par exemple.
Non, non, Kingdom Builder. Mais...
Ah non, mais pour Queen Games, ah oui, non, ah, mais oui. Queen Games, c'est juste possible.
Il a répondu à ta question ?
Non, il n'a pas répondu à la question.
Enfin, il a pas l'air
convaincu. C'est un débat perdu en fait.
En fait, tu as les deux approches. Il y a des coûts qui sont inhérents à la coproduction, coûts de licence, etc. Et puis la deuxième réponse, c'est. Bah, l'éditeur fait ce qu'il veut et il a raison.
Bah oui.
Parce que ça va te vendre. Bah,
si ça se vend, il a raison. En
fait. Ouais.
Bah ça se vendra de toute façon. Il est positionné sur le même prix que Carcassonne. Alors je sais pas, parce que si c'est 30€ chez Philibert, j'espère quand même que c'est pas 40 ailleurs. Quoi.
Bon après, c'est pas révolutionnaire, hein, c'est très plaisant. Voilà. Bah tiens.
Il y a des pions en bois.
Geoffroy.
Oui.
Attends, on n'a pas fait
la fiche signalétique.
La fiche signalétique.
Alors, c'est un jeu anglais, je pense. Cacao, c'est un jeu de Phil Walker Harding chez Abacus ou Philosophia en français. C'est pour.
Mais achetez-le en anglais.
2 à 4 joueurs, c'est un peu le message, à partir de 8 ans et ça dure 3 quarts d'heure.
Oui, oui.
Une demi-heure, 3 quarts d'heure.
Geoffroy, tu voulais me parler du CCE du SDR.
Oui, donc en français, le jeu de cartes évolutif du Seigneur des Anneaux.
Ouais.
Et en langue des signes.
Ouais, alors en langue des signes, je ne saurais pas.
Ça fait.
En fait, par exemple, le mot seigneur ne se traduit pas, donc il faut utiliser le mot roi ou chef. Mais... Enfin, en tout cas, ma connaissance. Et JCE, voilà. Bon, je sais pas comment on va faire. Non, bon, bref. j'ai pas à le faire, donc c'est bien. Donc, pourquoi j'en reparle ? Parce que je pense que c'est le jeu qui m'accompagnera pendant le plus longtemps de ma vie, probablement. Parce qu'il est encore vivant. Je crois qu'il y a des sorties tous les mois, ouais. Que ce soit des adventure packs, donc des scénarios avec des cartes supplémentaires, ou des extensions... de campagne, donc ce sont 3 scénarios avec beaucoup de cartes supplémentaires qui sont soit des campagnes indépendantes, donc notamment celle sur Bilbo le Hobbit,
oui.
Soit des campagnes qui sont des arcs précis de l'histoire de la Terre du Milieu, donc par exemple celle qui concerne Minas Tirith par exemple ou Saruman. Donc c'est un jeu qui a un potentiel d'histoire que je trouve vraiment quasiment illimité, parce que à partir du moment où un homme, Tolkien, a décrit un univers depuis sa mythologie jusqu'à son entre guillemets son ère moderne, il est possible de décrire plein de choses avec des histoires heureuses, des histoires malheureuses, des histoires tragiques, des histoires d'amour et tout ça.
Et donc, enfin, je suis toujours prêt à refaire une partie de ce jeu, même si il nécessite quand même d'être joué un peu sur la durée pour se remémorer toutes les cartes qui sont à disposition, pour se remémorer toutes les règles, avec des FAQ qui sont remises au goût du jour régulièrement. Donc ça, c'est un petit peu pénible de se dire « Ah, peut-être que j'ai plus le droit de faire ça parce que finalement, les concepteurs ont jugé que c'était trop facile. Mais néanmoins, ce que je trouve incroyable dans le jeu, c'est le fait que à chaque fois que je joue, je suis plongé dans l'histoire et vraiment, vraiment, vraiment plongé. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Donc, si vous aimez l'univers du Seigneur des Anneaux, je peux que vous conseiller de vous faire initier par quelqu'un ou d'acheter une boîte. Et vous allez voir que vous allez vivre l'histoire parce que c'est l'immersion. Et pour moi, est super bien réussi.
La boîte de base. La boîte de base, elle est à 35 euros. Elle est. T'as combien 5 scénarios, 6 scénarios?
Non, t'en as pas tant que ça, t'en as que 3.
3 seulement.
Non, un très facile, bon, et après 2 plus évolués.
Voilà, enfin, même que 3. Après, il y a un scénario dans chaque boîte.
Et la notion de construction de deck est plus simple dans ce jeu. Je me rappelle de ce que disait Olivier à l'époque qu'un jeu comme comme un Netrunner, un Trône de Fer, où tu vas vraiment construire avec toute la panoplie de cartes.
Ouais. Ouais, parce
oui,
que
oui, il y a des cartes qui sont considérées comme fortes et tu peux t'appuyer sur ces cartes-là, en fait.
Ouais, et tu vas t'appuyer sur les cartes de l'extension pour vivre l'aventure de l'extension.
Voilà, exactement.
Ouais, sauf que après, les cartes d'extension, tu les as mis dans le paquet commun et je sais pas comment tu classes toi tes cartes, mais moi, elles sont passées, il y a un gros paquet et puis voilà quoi.
Je joue en mettant les cartes de nouveaux scénarios dans mon lot de cartes à choisir.
Ouais, c'est ça.
Et je joue de façon chronologique, c'est-à-dire je joue en fonction de la date de sortie des scénarios. Donc je reviens en arrière, alors avec des cartes postérieures, mais je reviens en arrière quand j'estime que j'ai mal fait un scénario. J'estime que c'est pas grave, on fait ce qu'on veut du jeu, hein, on en fait vraiment ce qu'on veut. Je suis toujours surpris par le fait que ce jeu m'emmène voyager. De la même façon qu'un des concepts du jeu, c'est de faire voyager, de faire qu'on appelle quêter les personnages. Et c'est un truc tout bête, c'est-à-dire que on est entouré de ce qu'on appelle de lieux, c'est-à-dire d'endroits où il est possible d'aller, et on a le choix d'y aller ou de pas y aller. Et ça, c'est incroyable de dire je peux aller là et vivre l'aventure qu'on me propose ou ne pas y aller. Et autour de moi, même si c'est possible d'y aller, je peux le laisser autour de moi, quitte à ce que ça me rend une pression dans l'accomplissement de mon scénario. Et ça, c'est vraiment très, très, très bien rendu. C'est comme, il peut y avoir un ennemi, dans mon entourage. Je ne suis pas obligé d'aller le voir, mais il est là. Et si jamais je le laisse, au bout d'un moment, il va...
C'est lui qui va te trouver.
Ouais, si
tu
ne vas pas le trouver,
c'est lui qui va te trouver.
Exactement, c'est lui qui va me trouver. Et ça, c'est vraiment très, très bien rendu, cette pression du jeu, qu'on est libre qu'on est libre de prendre ou de ne pas prendre.
Et puis il y a un autre aspect, on parlait du jeu de Game of Thrones, le Trône de Fer, il y a quelques temps. Je retrouve aussi cette façon de vivre une aventure, en fait. C'est vrai pour les scénarios de base ou les scénarios qu'on a dans les petites extensions. Dans le Hobbit, c'est incroyable. En fait, t'as énormément de façons d'être impliqué dans l'aventure et des façons très différentes les unes des autres. Et le premier scénario de Hobbit, alors je vais spoiler, alors ceux qui veulent vous avancer un petit peu je vais spoiler. Là, le premier, tu l'as fait ou pas?
Je sais plus si je l'ai fait celui-là.
Bon, premier épisode du Hobbit.
Oublieras.
non mais c'est pas un gros spoil en fait. Et puis je pense que je l'ai déjà dit. C'est le Hobbit. Le début, c'est les trolls. Donc tu rencontres les trolls. Mmh. Et t'as des cartes mises en sac. Donc c'est la Bérésina. Mmh. Et en fait, les nains, les uns après les autres, sont mis en sac. Et tu vis le truc. Et tu te dis, mais jamais je vais m'en sortir, quoi. On va tous mourir. Je vais être obligé de refaire le scénario. Et tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire, quoi. Et à un moment donné, le soleil se lève. Les trolls sont transformés en pierre. Et ça s'arrête. Et t'as réussi le scénario.
Il faut survivre jusqu'au soleil.
Alors t'as deux façons de, en fait, ce qu'amènent les ces extensions là, c'est que t'as des trésors qui vont te permettre de jouer en campagne, en fait. Donc si tu les, si tu défais les trolls, t'as un avantage. Si tu défais pas les trolls, tu passes là pour le premier scénario, puis après tu continues. Mais t'as pas l'avantage que te donne le fait d'avoir vraiment réussi le scénario. Mais t'as une t'es vraiment dans l'action, quoi. Enfin,
et puis chaque histoire est vraiment très typée. Par exemple, tu te retrouves dans ce qu'on appelle les collines de l'Émile-Mille. C'est des collines, mais à perte de vue. Et il y en a plein. Et ça veut dire qu'il y a plein de cartes avec des collines. Et on est perdu. Et on sait plus où aller tellement il y a d'endroits où aller. Et ça, c'est extrêmement bien rendu.
Et donc, et après, c'est là que la construction de deck, elle joue. Tu peux soit plutôt te battre, soit plutôt être dans le... Alors dans la quête, c'est métaphorique aussi, hein. c'est une quête, c'est le niveau de conscience...
De volonté.
Ouais. C'est la volonté de vouloir avancer et puis de...
Et d'emmener sa troupe avec.
Voilà. Ouais. Donc c'est ça, c'est la métaphore de... Et je continue à avancer, bien que je vois pas le bout du tunnel, en fait. Et donc, c'est là que... des fois, moi j'aime bien commencer un scénario... juste prendre les cartes, faire des deux tas, enfin deux ou quatre, mais en général on joue à deux, dire toi tu vas prendre telle ou telle couleur, moi je vais prendre telle ou telle couleur, on fait notre truc, puis après hop, première carte du scénario. Ah ouais, mais mes nains avec leur hache vont pas bien servir là-dedans, tu vois. Et là c'est pareil, quoi. Tu prends des nains dans les collines des Mille-Mille, ils vont se traîner et ça va être horreur, quoi. Donc c'est exactement ça. Donc voilà, le JCE du SDA, un des meilleurs jeux coopératifs du monde, avec Battlestar Galactica. Et on en a une un vrai exemple ce week-end, Stéphane, si tu m'écoutes. Et puis Anabi. Enfin, pour moi, c'est le triptyque, c'est des jeux qui sont complètement différents, mais qui sont incroyables en coopératif. Et tu vois, j'aime beaucoup Netrunner, mais je pense qu'il s'en sera jamais au niveau du JCE du SDA, parce que c'est du
pas pareil.
Ouais. Et puis que pour chaque deck corpo que tu vas avoir, il faut que tu te fasses un deck. Enfin, tu fais des decks bien particuliers pour chaque runner ou corpo. Et ça demande beaucoup plus. Là, tu prends toutes tes cartes rouges, tu les regardes, tu dis tiens, je vais faire les nains. Les nains, ils ont des armures, ils ont des. Tu regardes les cartes qui vont bien ensemble. T'en prends 60 et puis c'est bon.
Et tu peux faire une thématique.
Tu fais des thématiques.
Des thématiques. Tu peux faire des associations de personnages. C'est tout simplement. C'est-à-dire, je vais faire un nain et un elfe qui tu peux pas supporter, pourtant qui vont devenir amis au fond de la quête, en fait.
Ouais, mais c'est pour ça, c'est une grosse différence, oui. Comme tu es en coopératif, t'es pas obligé de deviner quel est le metagame avant d'aller jouer au tournoi ou machin. Tu vas devoir jouer un peu.
Et puis ça te base sur quelque chose d'écrit, écrit.
Et dans beaucoup l'imaginaire de
quantité
joueur,
d'informations.
Ouais.
Mais c'est le côté, ce que je disais il y a 3 semaines, c'est le côté Fantasy Flight qui sait développer ces jeux là-dessus, quoi. Tu vas jamais acheter un JCE en disant je suis une boîte de base, en disant qu'est-ce qu'ils vont faire après, quoi. Je suis pas sûr qu'il va y avoir quelque chose.
Non,
tu sais que s'ils sortent la boîte, ça va y aller, quoi.
Donc là concrètement, parce qu'il y a Olivier qui me titille déjà depuis quelques temps avec le Seigneur des Anneaux. Là j'en entends parler. Si moi je veux commencer là aujourd'hui, j'achète une boîte de base.
C'est tout.
Et derrière, après, les arcs sont dans l'ordre ou je peux les prendre.
Tu trouveras peut-être plus la première saison.
Non, mais c'est pas grave,
tu t'en fous. En fait, après, tu prends le thème qui te plaît maintenant. On dirait, si tu veux jouer le Hobbit, tu joues le Hobbit. Si tu veux jouer Saruman, tu joues Saruman.
Alors, peut-être pas les petits paquets, mais les boîtes d'extension, ouais, tu peux prendre des.
N'importe laquelle, en fonction de l'épisode, de la période.
Ouais. Alors, l'épisode, c'est-à-dire que.
L'épisode de la période du Seigneur des Anneaux qui m'intéresse plus.
En fait, au départ, ils avaient décorrélé le.
Ils avaient dit que ce serait entre les deux.
Voilà.
Ce serait entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux.
Et après, on est bien cons quand même. Donc, ils ont fait des grosses boîtes ou des boîtes de luxe. Ces boîtes, des mi-boîtes, si tu veux. Non, t'as la boîte de base, t'as des petits paquets, puis après, t'as des boîtes un peu plus grosses. Avec trois scénarios.
En général, c'est trois. Ouais. Ouais.
Et ils ont fait. Donc, l'Hobbit, ça m'a un peu étonné. Ils ont fait que deux boîtes comme ça. Je me serais attendu à ce qu'il y en ait trois, mais non, ils en ont fait deux.
Non, mais c'est pour le film.
Et après, tu peux suivre le film s'ils ont commencé. Je crois qu'ils en sont à la deuxième ou la troisième extension pour le film. Donc voilà.
D'accord.
Donc, soit tu joues quelque chose qui est un peu à la marge des films. Soit tu veux suivre le...
Mais si tu prends les petites extensions, pour que tu aies toutes les cartes, etc., elles sont diluées sur les 6 extensions d'une série. Ouais. Enfin, je sais pas comment ils appellent ça.
Là, mais... c'est un gouffre africain, c'est 90 euros l'arc. Quoi. Donc,
Ouais, le petit paquet...
Mais par contre...
C'est pas grave, c'est pas grave.
T'as vraiment assez de cartes dans la boîte de base pour jouer à 2. Le problème, c'est quand tu joues à 4, il te manque du matériel.
Ouais.
Bon, après, tu prends un dé, tu prends des choses comme ça, ça va très bien, mais...
Et du coup, il y a une notion de campagne où tu peux.
Il y a certains scénarios qui peuvent fonctionner en campagne, oui. Mais comme c'est un arc narratif, enfin, ce sont des arcs narratifs qui se suivent, tu sais qu'à la fin de cette mission, l'histoire d'après va être logique par rapport à ce que tu as déjà vécu. Même sur les petits paquets, en fait.
Oui, non, mais enfin, je veux dire, il y a une notion de campagne, c'est-à-dire que par exemple, en arrivant à la fin d'une. Tu fais une quête, tu arrives à la fin, elle va t'apporter un bonus.
Ah, ça dépend réussi, des boîtes.
Elle t'apporte un bonus pour la prochaine, ou si tu la perds, elle va t'apporter un malus et la deuxième sera peut-être un peu plus dure, tu vois.
Donc ça va dépendre des boîtes.
C'est ça que j'appelle la notion de campagne, ouais. C'est-à-dire non. Que t'as un malus ou un bonus pour la quête d'après.
Bonus, oui, si tu fais il y a deux boîtes pour le Hobbit, si tu t'achètes deux boîtes, t'auras 6 scénarios qui vont suivre et qui vont te permettre de garder des choses d'un scénario à un autre.
D'accord. Ouais, donc d'emporter des objets que tu trouves,
ouais,
par exemple.
Ou...
Okay.
Donc, le JCE du SDA, c'est un jeu de cartes évolutif qui est paru chez Edge Entertainment à partir de 12 ans et plus. Et puis pour 35 euros la boîte de base, et après une partie c'est 45 minutes. Une heure. En fait, le problème, c'est que si tu fais ton paquet, enfin, il faut compter la soirée où tu vas faire ton paquet, puis tu vas jouer 2, 3, 4 scénarios, quoi.
Oui, jouer un scénario tout seul.
Ça fait
seul,
beaucoup, en fait. Ouais, c'est plutôt 2-3 scénarios.
Ouais, t'enchaînes les parties
dans la soirée.
Façon,
ouais.
Parce que.
Mais sinon,
parce que t'es pris dedans.
C'est peut-être une heure le temps de faire ton paquet, puis après de faire ton scénario.
D'accord.
Ça m'a fait bien plaisir que tu nous présentes le JCE du SDR.
Je le pensais,
ouais.
Bien.
Ouais, ouais.
C'est pas Olivier qui t'avait donné envie il y a 3 ans.
Non, j'aurais pu parler de Mage
déjà...
Knight. Ah. Moi, je suis assez fan de l'univers, donc de toute façon.
Jérémy ?
Oui ?
Tu veux nous parler aussi du JCE du SDA ?
J'ai mon JCE à moi, j'ai mon SDA à moi, c'est Dominion.
Je comprends pas ce que tu dis.
Alors, je sais pas si j'en parle maintenant ou si on attend la sortie de la version française.
Il y a
mais...
des arcs narratifs dans Dominion.
Coûte moins cher que
ouais.
Le JCE.
Ouais, ça s'appelle une extension. Ça s'appelle une grosse extension. Il y a une nouvelle extension qui est sortie pour Dominion et tu vis des aventures. Ça s'appelle Adventures. Eh ouais, ils ont rajouté encore un nouveau Dominion. Alors, c'est encore un Dominion, je dis tout de suite. Si
ouais,
vous débutez.
Ils ont attendu 10 boîtes pour te faire vivre des aventures.
Ah, c'est pas grave, j'ai déjà vécu des tas d'aventures dans les parties de Dominion.
C'est une aventure d'aller en boutique.
C'est une nouvelle extension. Il y a eu Guild l'année dernière qui était une petite boîte. C'était censé, normalement, vous avez dit ouais.
De Dominion, là.
Bah, il y a Aventure, tu veux pas que je t'en parle?
Si.
Je t'en parle vite fait, je te dis juste les nouvelles mécaniques. Ah, je veux pas te détailler les 40 cartes non plus.
Alors, il y a une boîte.
Non, mais c'est.
Avec plein de cartes dedans.
Dominion devait y avoir 8 extensions. La 8ème est sortie l'année dernière avec Guild et normalement, ça devait s'arrêter. Et bah, non, finalement, surprise de cette année, forcément, on va pas arrêter.
Tuer la poule aux
odeurs. Tuer la poule aux odeurs. Donc, ils ont sorti Aventure. Aventure, c'est une grosse boîte, donc beaucoup de matos, beaucoup de cartes royaumes. Donc, en anglais pour l'instant. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont mis dedans plein d'idées qu'ils avaient eues, mais qui permettaient pas de faire une extension complète. Donc, ils ont tout mis dedans. Ils ont appelé ça Aventure, ils ont dû rethématiser ça comme ils pouvaient. Globalement, c'est quand même des cartes puissantes. On a trouvé des cartes même qui sont carrément trop puissantes, même déséquilibrées. Mais ça, c'est le côté jeu américain. On est joueur européen, on aime un peu l'équilibre sans doute. Ou bien on n'a pas tout vu, mais il y a des cartes qui nous ont paru vraiment très très fortes, qui font mal, qui te rapportent beaucoup d'argent tout en faisant défausser des cartes aux adversaires. Enfin, écarter des cartes. On retrouve, si vous aviez aimé dans... comment c'est en français ? C'est Rivage. Dans l'extension Rivage, il y avait des cartes de durée qu'on pose une fois, elles sont oranges, et on en bénéficie ce tour-ci et également le tour prochain. Donc c'est le retour de ces cartes-là, c'est des cartes qui sont assez sympas. Il y en a même une que tu joues une fois et que tu gardes toujours activée et qui te permet de piocher une carte de plus au début de ton tour. Elle coûte 6, mais c'est vraiment une carte très très intéressante. Après, il y a une notion de... de personnages qui vont évoluer. Alors, ils appellent ça des voyageurs. En fait, t'achètes la carte la première fois et quand tu la joues, après, tu décides si tu la défausses pour récupérer une carte, pour récupérer une sorte d'upgrade en fait de la carte gratuitement. Et ainsi de suite, tu vas pouvoir la faire évoluer jusqu'à 5 fois. Donc on passe du soldat à, en gros il va être non, au début du paysan, je crois, après il va être soldat, après il va être un truc en fuite, etc. Puis à la fin il va finir un peu curé et un peu curé, oui, je crois qu'il devient un truc comme ça, et après il devient il peut devenir mentor. On va retrouver, alors ils ont rajouté des tas de trucs, il va y avoir des événements. Alors les événements, ils ont, quand tu fais la mise en place du jeu, t'en mets un ou deux. Il y en a une dizaine en choix, non, il y en a même plus que ça en choix. Et en gros, ils coûtent genre 2, 3, et tu peux l'acheter au moment des achats, et ça fait un effet. Un effet qui peut être quelconque, mais ça compte dans ton achat. Au lieu d'acheter une carte, tu déclenches l'événement. Par contre, ils conseillent de ne pas en mettre plus de 2, et nous, on n'en met qu'un seul dans les parties, parce qu'après, ça fait beaucoup. En sachant que certains événements, bah, c'est pareil, c'est comme toujours, ils ne servent pas toujours par rapport aux cartes qui sont proposées. Après il y a les cartes réserves, c'est sans doute la vraie innovation de cette extension. Tu peux acheter des cartes réserves quand tu vas les jouer, donc tu l'achètes, elle va dans ta défausse forcément, et plus tard quand tu vas la piocher, que tu vas la jouer, elle va aller sur ta taverne. T'as un petit carton qui représente la taverne, tu la mets dessus et là elle reste sur la taverne jusqu'à ce que il y a des conditions qui te permettent de la rejouer. En fait, il y a des conditions qui permettent de déclencher l'effet. Dans ce cas, tu peux la reprendre de ta taverne et jouer directement son effet. Ou bien tu la joues tout de suite, ou bien par exemple si ça t'arrange pas tout de suite, tu fais bah, par exemple j'en ai une, en plus elle coûte que 2, tu peux la mettre, tu la mets sur ta taverne, et plus tard au début de ton tour si tu veux tu la joues, et tu peux dans ces cas-là écarter une carte de ta main, donc une carte malédiction par exemple, ou si tu veux te débarrasser de tes cuivres, c'est parfait. Voilà, et qu'est-ce qui reste d'autre? Ils ont rajouté aussi une notion de token, de jetons, qui peuvent te faire par exemple la prochaine fois que tu joues de l'or, enfin c'est un truc qui va être négatif et attaquer les autres joueurs. Ils ont un jeton, ils prennent un jeton moins un sou, et ça veut dire que la prochaine fois, par exemple, si j'ai 5 sous en main, bah en fait j'ai moins un, donc j'ai que 4 sous pour mes achats. Il va y avoir des cartes comme ça, il va y avoir des cartes, le jeton voyage, et les cartes elles ont un effet, quand tu joues ta carte, tu retournes ton jeton voyage, s'il est sur le côté face visible, dans ces cas-là, tu as un gros bonus. Tu vas piocher 5 cartes, et puis sinon, bah, donc la fois après où tu joueras la carte, par contre, tu vas se trouver face cachée, donc dans ce cas-là, tu n'auras pas le bonus, tu n'auras pas grand-chose. Mais il faut quand même jouer cette carte, là, il faut quand même jouer l'action pour pouvoir le remettre face visible pour la fois d'après. Voilà, c'est tout. C'est plein de petits concepts comme ça qui sont tous mélangés dedans. Au final, on a quand même des cartes puissantes. On a un jeu, c'est un peu comme pour Guild, j'avais déjà dit la même chose. C'est-à-dire, c'est quand même pour des joueurs qui connaissent déjà Dominion, qui maîtrisent Dominion, qui connaissent les tenants et aboutissants des différentes possibilités qu'il y a dedans pour vraiment. Et qui ont envie du coup d'aller explorer quelque chose de nouveau. Ça renouvelle le jeu, ça permet encore une fois de ressortir sa boîte qu'on avait un peu rangée, malgré
les 8
extensions. Ouais, ouais, justement. Bah, c'est le cas de celle-là aussi, mais vraiment, toujours agréablement. Au début, hein, quand Dominion est sorti et tout, je me suis dit, oh, le nombre d'extensions, j'achèterai jamais tout, etc. Mais en fait, si, chaque extension, elle a toujours amené une certaine dimension. Et elle a son identité quand même. Donc, ça veut dire que, voilà, un jour, on veut jouer. Actuellement, on joue à celle-là. Parce que elle est nouvelle, mais plus tard, comme des fois, on dit, tiens, j'ai plaisir à rejouer avec Dark Edge parce que je veux un truc un peu challenge, je veux sortir Dark Edge. Par contre, si je veux un truc où l'argent va couler à flot, je vais prendre telle extension. Donc, elles ont bien leur thème et c'est assez pratique.
Et comment tu fais? Tu gardes toutes tes boîtes indépendantes les unes des autres?
Ouais,
ou
moi
tu...
je fais comme ça. Je concentre pas toutes mes. Alors je réagis.
En fait, il y en a qui mettent tout en sachet et qui piochent 25, je sais plus, 20 sachets ou 15 sachets.
Moi je fais pas ça. Pour une raison simple, c'est qu'une extension, souvent, il y a quand même des cartes qui sont faites pour marcher ensemble. Donc du coup, quand on joue. Actuellement,
comme
je joue.
Miniville.
Ouais. Comme il n'est pas fait, justement, comme c'est pas fait dans Miniville. Et ben, actuellement, Aventure, on joue, on prend les 10 cartes de Aventure. Parce que vraiment, on a envie de découvrir toute l'extension. Plus tard, ce qu'on va faire, on va surtout prendre Aventure. Puis on dira, tiens, bah, je vais la coupler avec, avec Rivage. Ou bien, je vais la coupler avec. Et on prend que 2 extensions. Et on prend 5 cartes en gros de chaque extension. Pour garder les synergies des cartes. Quoi. C'est juste impossible. Par exemple, si tu sors des alchimies ou des choses comme ça, sinon tu vas pas t'en sortir. Donc on fait plutôt comme ça, et donc du coup bah, moi j'ai gardé toutes mes boîtes différentes. C'est aussi parce que je les stocke pas dans mes étagères chez moi, mais dans mes étagères au boulot, parce que ça fait,
ah oui, c'est vrai.
Ça fait du volume. Si je devais les stocker chez moi, peut-être que j'aurais réfléchi à une solution.
Tes boîtes de Dominion sont au boulot?
Ouais, j'y joue un midi en fait.
Ces joueurs de Dominion sont au boulot aussi.
D'accord.
Ouais, j'ai que la boîte de base de Dominion chez moi pour jouer avec mon fils, mais globalement tout le reste de Dominion est au boulot, parce qu'on joue, on mange vite et puis on joue comme ça, on fait une à deux parties le midi.
Puis des fois, il essaie de pousser des. Il voudrait pousser des joueurs dans les escaliers. Enfin, faut écouter les anciens numéros. Pour...
Mais attends, ta boîte paye ton stockage.
Ouais, si tu veux.
D'accord. En réalité, c'est toi qui. Pardon.
Bah, je pense que chez SFR, t'avais bien des étagères qui étaient vides, quoi. Des armoires qui sont pas toujours bien remplies.
Oui, non, bien sûr.
Ah, c'est juste stocké là, quoi. Bah, voilà.
C'est pas ton outil de travail, Dominion.
Non, c'est pas mon outil de travail. Ouais. Non, je le fais sur la pause de midi, je te rassure. Je fais pas ça toutes les heures. J'aimerais bien ne pas travailler pour jouer, mais c'est pas possible. Voilà, donc je sais que la traduction française est en route.
C'est qui ?
Bah, chez Istari. C'est eux qui ont tout repris. Mais je sais pas quand ça sortira, donc de toute façon, quand la version sort chez Rio Grande en anglais, je prends direct. Ça fait longtemps que j'attends plus les VF. Voilà pour Dominion, j'avais vraiment envie d'en parler quand vous avez eu envie de parler du Seigneur des Anneaux.
Ah, c'est une vengeance en fait. Hein.
Non, c'est bah, c'est, alors là, c'est franchement le hasard.
Puisque
moi,
c'est comme ça.
C'était prévu, hein, je l'avais écrit, j'avais noté.
Bah, nous non.
Non, c'était improvisé.
Je veux dire, nous aussi, mais non. Franck.
Un autre jeu.
Olivier.
Comment ça, un autre jeu ?
Non, c'est pas ça.
Un autre jeu.
Tu conclus ?
Non ? T'as déjà raconté. Tu nous as présenté un jeu déjà ?
Ah, Olivier, alors, fatigué.
Quel était le titre du jeu ?
C'est Poisson Rouge, je crois qu'il a plus
tourné. C'est ça, on continue. Allez, encore un jeu.
Un autre jeu ?
Bah, t'as présenté quoi ?
Sapiens. J'ai présenté Sapiens.
Ah oui !
Mais c'est pas ce que tu nous avais dit. Tu nous avais pas dit que tu nous présentais autre chose ?
Non.
Ah d'accord, tu nous avais pas dit.
Je n'avais rien dit, j'avais entretenu le suspense.
C'est pour ça que j'étais surpris en fait.
Et voilà.
D'accord, vous voulez en rester là ?
Oui.
Oui ? Je regarde Geoffroy, mais il dit.
Ah,
mais,
ah moi j'ai le droit de dire quelque chose ?
Ouais. Est-ce que tu veux présenter un autre jeu ?
Tu veux présenter Mage Knight ?
Non, mais Mage Knight, c'est compliqué à.
Ouais.
Parce que c'est bien.
Ouais, c'est excellent. Si tu veux aimer jouer seul, c'est excellent. C'est vraiment.
Si tu aimes jouer tout.
Si tu aimes jouer seul.
Non, mais enfin, après, il y a des gens qui s'amusent à 2, à 3, à 4, à Mage Knight. Pour jouer seul, pour jouer une aventure de.
Le Seigneur des Anneaux, tu joues pas seul quand même ?
Si.
Ah, c'était la question que je vais te demander. Je voulais savoir si tu jouais en couple ou non, tu joues tout
non,
seul.
Non, je joue seul. Mais ça m'est arrivé de jouer à 2 au Seigneur des Anneaux. Mais Mage Knight, à jouer seul, c'est. C'est compliqué de trouver dans cet univers-là un concurrent qui vale le coup. Il y a les boîtes de Donjons et Dragons, les Jeunes Dritz, le château de Ravenloft, qui sont pas mal, mais qui ont pas du tout le même calibre que Mage Knight. Mage Knight, c'est vraiment, on a l'impression de vivre quelque chose d'épique quand on y joue, vraiment.
Et bien avec ça,
oui.
Tu me l'as bien vendu. Bon, moi je joue jamais tout seul, mais. Enfin, je joue jamais tout seul à des jeux de société. Après, des jeux de jeux vidéo, oui, mais pas des jeux de société.
Alors après, par contre, Mage Knight, il faut pratiquer pour...
Oui, c'est sûr.
Enfin, avant de vivre quelque chose d'épique, tu vis quelque chose de particulier.
Tu vis des règles.
Mage Knight, la règle, est, oui, c'est un petit peu... Ouais.
C'est un quatil, hein.
C'est,
donc
ouais,
déjà,
c'est
la règle à lire, c'est pénible.
C'est ça. Donc avant de vivre quelque chose d'épique, tu vis quelque chose de pénible et tu vas pas forcément.
Après, peut-être.
Si
tu t'accroches.
Je l'ai essayé.
C'est ta volonté du...
Je l'ai gardé, j'ai essayé de faire... trois parties et je suis pas allé plus loin parce que j'ai trouvé ça plus pénible qu'épique.
T'es joué tout seul
pour
aussi
moi et au début, j'ai essayé tout seul déjà pour enfin comme tu peux y jouer tout seul, j'ai essayé d'y jouer tout seul pour les mécanismes et voilà avant de jouer
pour l'expliquer plus facilement
pour pouvoir l'expliquer plus facilement et même tout seul j'ai trouvé à un moment t'as tes cartes et c'est avec tes cartes que tu fais tes actions. Et j'ai regardé mes cartes et j'ai dit mais je peux avec mes 5 cartes là je vais jamais réussir à faire ce que j'ai envie de faire et j'étais frustré parce qu'à tout moment tout ce que je voulais faire ça tombait à l'eau avec mes cartes et je pouvais rien en faire et voilà donc
ouais il est exigeant
il a très certainement son public et ça je peux le comprendre parce que c'est il y a des possibilités qui sont nombreuses dedans mais moi j'ai pas accroché.
Ok.
Et tu peux sauvegarder ta partie, apparemment, comment dire, assez facilement.
Tu prends une photo ?
Ouais, alors ça, j'ai essayé, mais...
Non, si, ça va.
Sinon, tu mets sur une planche, tu sais, quand tu joues. Tu prends ta planche, après, tu la mets quelque part, qui est positionnée pour la mettre en hauteur. C'est comme ça qu'on fait pour sauver les parties de Rosenbaum sur deux soirs ou des choses comme ça.
Non, mais les nouvelles tables en bois, là, à double étage.
Non, mais sous la table.
Ah ouais, mais bon, je vais pas changer ma table à chaque fois, enfin...
Ah bah, vu le prix, tu la changes pas, tu l'achètes une fois.
Ah, mais les tables geek chic ou machin, non, mais même tu pourrais avoir d'autres types de tables avec.
Celle-ci, elle est parfaite.
Ouais, celle de Olivier, elle est bien. Faut pas jouer à mascarade parce que c'est une planche. Par contre, il faut quand même. Ou alors tu joues dessous dès le départ. Ou alors il faut déplacer ta planche avec un risque quand même que dans la translation. Chla. Donc nous en général, avant de déplacer la planche, on fait une photo. On sait jamais. Ou si le chat débarque et t'embarque les pions. C'est jamais arrivé. Mais...
Ouais, mais vu qu'il a dormi pendant les 4 heures d'émission, ça va.
Il y a quelques petits moments où il est parti courir partout. Ouais. Puis voilà. Il va rien se coucher après.
Voilà. C'est la fin de l'émission. La fin des 4 épisodes consacrés à Geoffroy. Merci beaucoup d'être venu.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Franck, de nous avoir accompagnés.
Ouais, merci de m'avoir accueilli.
C'était sympa. Merci, Eve. Mais on l'entend pas. Je sais pas si on l'entendra.
Je pense pas parce que j'entends pas.
Micro, mais, et puis, bah, merci Jérémy pour cet épisode.
Merci pour l'accueil.
Donc, vous rappelle, si vous voulez vous abonner à Twitter @proxyjeux, si vous voulez nous liker sur Facebook, c'est proxyjeux. Le site proxy avec un i-jeu avec un x.fr. Le site, c'est podcast.proxy-jeu.fr. Qu'est-ce qu'il y a?
Si vous voulez nous liker sur Facebook.
Si vous voulez nous liker sur Facebook. Pourquoi je répète ces bêtises? La semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, ce sera un petit peu particulier parce qu'on ne sait pas. C'est bientôt les vacances, donc ça va être le bazar.
Parce que là, c'est l'épisode va être en ligne fin juin, début juillet. Ouais. Oui, on sera pas loin des vacances.
Et donc, ça risque d'être un peu compromis. Ma crise de la quarantaine, tout ça. Donc,
naissante.
C'est prévu. Et donc, on verra.
Sinon, on sera en août.
Vous verrez.
Voilà.
Vous verrez. Sinon, voilà.
J'ai une dernière question. Quand est-ce que vous achetez le domaine proxy avec un Y et sans X? Jeu sans X.
Proxy avec un Y tiré jeu. Parce que
sans X.
Parce que dans proxy, à proximité.
Pourquoi
et qu'on n'ait pas des informations.
Ouais, mais en .fr, en .com.
Non, mais peu importe, pour que t'aies pas à préciser à chaque fois qu'il
faire une redirection. Mais
il faudrait faire avec le tiret, sans le tiret.
Tu te rends compte que j'arrête de dire que c'est proxy
avec
un tiret jeu avec un X?
C'est une institution.
C'est impossible, quoi.
Ouais. Donc jamais.
D'accord.
D'ailleurs, je sais pas, proxy jeu, il faudrait voir si.
Mais n'empêche que même des gens qui connaissent et tout, régulièrement, dans les emails, je vois, ça va avec un Y.
Ah, donc ça donne du poids à ma proposition, quand même.
Tout à fait. Donc vous pouvez nous offrir le nom de domaine proxy jeu avec un Y.
Par contre, attention que quelqu'un d'autre le réserve pas.
Non, mais on s'en fout.
Bon, bref. Qui irait t'appeler comme ça quand même?
Avec un Y. Ça veut rien dire.
Avec un Y, ça veut rien dire. Ouais. C'est qu'un truc d'informaticien.
Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment de notre compagnie, que vous allez vous ruer sur Mage Knight si vous êtes tout seul ou juste sur JSDA si vous êtes au moins deux. On vous dit si on ne retrouve pas la semaine prochaine, on dit bonnes vacances. On vous retrouve à la rentrée
ou en août.
Ou en août pour
le BGF.
Pour le BGF. Et puis en attendant,
jouez bien.